Michael Tcherny, vous êtes à Rome pour le synode, vous êtes arrivé il y a quelques jours. On vous a contacté pour venir à ce synode, pourquoi?
Bon, je suppose c'est parce que il y a 7 ans, j'ai commencé à travailler en Afrique dans le réseau jésuite africain contre le sida. Nous travaillons dans une trentaine de pays. Je suppose que le synode peut aussi se rendre compte de cette riche expérience des jésuites qui font face aux défis du sida.
Est-ce que vous avez toujours été dans ce domaine de la santé?
Non, non, c'est une nouveauté pour moi. Avant, j'étais surtout dans le domaine de la justice sociale.
Et alors, on vous a demandé d'aller là-bas, à Nairobi, au Kenya. Alors, quel est votre travail?
Mon travail, c'est d'encourager, d'appuyer, de stimuler, de pousser les jésuites à répondre aux multiples défis du sida. Et ce qu'ils font, c'est une grande variété des réponses. Ça dépend de leur situation et des besoins des gens autour d'eux.
Donnez-nous des exemples.
Par exemple, autour d'une ville, on peut avoir des lieux très peu accessibles. Ils organisent des services qui vont en voiture au village pour aider les gens avec les médicaments, avec la nourriture, mais aussi avec l'éducation, la formation. Dans une ville, on peut avoir un centre culturel qui forme les gens. On peut accompagner les veuves, les orphelins, toutes les personnes en besoin, c'est-à-dire d'aider les gens de vivre leur sexualité dans une manière responsable et respectueuse. Et avec ça aussi, d'éviter de contaminer ou d'être contaminé.
Alors, vous êtes au synode, vous avez certainement entendu tous les débats concernant ce problème en Afrique. Qu'en est-il ressorti?
Ce que je trouve intéressant ici au synode, c'est que le sida trouve sa place parmi les autres grands défis. C'est-à-dire, ce n'est pas un cas d'urgence, ce n'est pas un tsunami, c'est une fête de la vie pour un grand nombre de personnes. C'est là. C'est-à-dire, ce n'est pas une catastrophe, mais quand le sida touche une famille, une personne, c'est une vraie tragédie. Et en ce sens, il faut en faire face. Mais il ne faut pas exagérer et il ne faut pas dire que c'est le seul problème ou l'unique problème ou le problème plus grand. C'est un grand problème parmi une dizaine ou 2 dizaines ou 3 dizaines de grands problèmes.
Vous évoquez les grands problèmes dont vous parlez au synode. Vous êtes arrivé avec des attentes. Est-ce que ce que vous portiez en arrivant, vous l'avez trouvé ou est-ce que vous avez en trouvé encore mieux que ce que vous attendiez?
J'avais pas grande idée parce que c'est tout nouveau pour moi, mais je dois dire que pendant une semaine ou un peu plus, on a écouté. C'était comme visiter toute l'Afrique dans une semaine. Et c'était touchant et émouvant et lourd d'écouter les témoignages d'un évêque après l'autre qui donne chacun un petit morceau, mais un morceau important de son souci comme pasteur.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple qui vous a particulièrement touché?
Je suis très touché par tous les soucis pour les jeunes et pour les familles. Même si la famille est encore plus traditionnelle en Afrique qu'ici, c'est aussi vrai que la famille souffre beaucoup de pressions, beaucoup d'altérités et des confusions, surtout quand les gens passent des zones rurales jusqu'à la ville, les
De la
bidonvilles.
campagne
Oui, exactement.
au bidonville.
Voilà, c'est le tissu de la famille est, on ne peut pas dire détruit, mais c'est très difficile de continuer de vivre la vie familiale. Et là, c'est aussi une source de graves problèmes pour les jeunes, pour les couples, pour les aînés et pour l'avenir. Il y a aussi beaucoup des cas au Kenya et dans des autres pays, des rivalités ethniques. Et c'était touchant d'écouter les pasteurs parler de ça parce que c'est un grave problème dans la société, mais c'est aussi un problème dans l'Église, dans les congrégations religieuses et même dans les paroisses. Malheureusement, c'est le cas que, par exemple, dans une congrégation, vous pouvez avoir une leadership d'un certain clan, un certain groupe, et les autres qui sont d'autres groupes ont, après un temps, la sensation qu'ils ont exclu ou qu'ils n'ont pas les mêmes opportunités. Et ça fait un dommage souvent silencieux, mais très lourd à porter. Et si l'Église ne fait face à ce problème, j'ai l'impression qu'on ne va pas trouver solution, c'est-à-dire qu'il faut le travailler. Et je suppose que ce synode, c'est la première occasion dans laquelle on a parlé de ça un peu ouvertement. Le même problème, ce problème-là, est assez grave dans les sociétés, dans les pays. Mais Pour être juste, on ne peut pas critiquer l'ethnicisme ou le racisme dans une société si on ne reconnaît pas que c'est un problème chez nous.
Ça, c'est une nouveauté que vous avez rencontrée au Synode. Vous en avez rencontré d'autres?
Je pense que c'est probablement nouveau aussi pour les évêques, surtout dans une grande proportion, de parler des injustices sur les ressources naturelles. Que l'Afrique est très riche en ressources, mais que les fruits de ce travail, les fruits de ces biens n'arrivent pas au peuple. Je suppose que c'était aussi avant une question plus technique ou plus sophistiquée, des économistes et tout ça, mais aujourd'hui, les évêques parlent de ça avec énergie. Et c'est difficile parce qu'ils n'ont pas à leurs mains les outils pour en faire face. C'est là qu'ils demandent si l'Église dans les autres coins du monde, surtout là où les grandes entreprises ont leur siège principal, ne peuvent-ils pas nous aider à faire qu'il y a un peu plus de justice dans ce sens. Un autre grave problème, c'est la faim et l'agriculture.
La faim.
Oui, c'est vraiment absurde qu'Afrique, avec une énorme capacité agricole, elle n'arrive pas à produire suffisant de nourriture de base pour leur peuple. Dans les autres pays, 2 ou 3 % de la population travaille dans la campagne pour produire le nécessaire pour toute la population et après ça, ils exportent. Par exemple, on a donné l'exemple de Vietnam. Mais en Afrique, en général, 70 ou 80% des personnes travaillent dans l'agriculture. Et le résultat, c'est du faim. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de nourrir leur propre population. Ils sont obligés à importer. Mm-hmm. Alors c'est absurde. Le résultat, ce sont des problèmes aussi dans l'éducation, dans la santé, dans la vie urbaine et rurale. Bon, c'était de nouveau un choc, je pense, pour tout le monde de reconnaître la gravité de ce problème.
Est-ce que vous sentez qu'il va y avoir des perspectives nouvelles qui vont s'ouvrir?
Oh, sans doute. J'espère qu'il y aura des nouvelles politiques, des nouvelles manières de faire pastorales. C'est la chose la plus importante. On n'a pas besoin d'une nouvelle doctrine, ce n'est pas la question. Mais de mettre en practice, de mettre en œuvre ce qu'on veut faire pour les jeunes, pour les familles, pour les femmes.
Vous avez parlé des jeunes et vous venez parler des femmes. Vous avez abordé le problème de la femme en Afrique.
Oui, le problème de la femme est ressorti plusieurs fois. Et surtout sur les questions de dignité et de participation. Participation dans la mission de l'Église et les problèmes sociaux qui sont bien connus de la violence, pauvreté, manque de droits, manque de dignité, manque de voix, manque de participation.
La jeunesse au Kenya, comment est-ce que vous la rencontrez et quels sont ses problèmes?
Bon, le problème principal, c'est le manque d'avenir. C'est-à-dire qu'une jeune personne peut-être arriver à aller à l'école, même si c'est très difficile. On dit que c'est gratuit, mais ce n'est pas du tout gratuit. La personne va à l'école, mais elle sait très bien que ce sera très difficile de trouver du travail, de faire une carrière, d'avoir quelque chose à faire. Et comme ça, l'école, en certain sens, c'est déjà un défi d'y entrer, mais sans savoir l'issue. Le taux de chômage parmi les jeunes, je ne sais pas s'il y a des statistiques, mais je suppose que c'est 70-90%. Et comme ça, on peut dire en global, le problème c'est que la société n'offre pas des opportunités. On a l'impression, comme jeunes, que les portes sont fermées.
Ça fait 7 ans que vous êtes à Nairobi. J'imagine que déjà vous avez beaucoup changé sur certains aspects. Est-ce que en revenant en Europe, il y a des choses qui vous choquent?
Je pense que c'est presque un cliché que ici en Europe ou en Amérique, il y a très peu de temps et tout le monde est pressé, tout le monde veut faire toutes les choses en même temps. Et quand on arrive en Afrique, on est un peu gêné parce que le temps semble très flexible, très élastique et tout ça. Mais après quelques mois ou quelques années, on commence à reconnaître que être toujours pressé, ça veut dire finalement de jamais être à son aise. Et que le temps qu'on appelle perdu, en fait, c'est le temps pour vivre. Et qu'ici, on est toujours en train de gagner du temps, mais on ne le gagne jamais. Et on est toujours trop pressé pour passer le temps. Avant, je travaillais surtout sur la justice sociale et j'étais très pris par les questions des structures, les structures d'injustice, les institutions, les organisations. Mais je reconnais que même sans des réformes structurelles, on peut vivre la vie. Et en Afrique, il n'y a rien et on vit. Et ici, il y a trop et on ne vit pas. C'est un paradoxe. Et en ce sens, j'espère beaucoup que la solution pour l'Afrique ne sera pas une grande occidentalisation à tel point que l'Afrique soit une autre province du village mondial. Ce sera triste. J'espère qu'il y aura encore du temps et de flexibilité pour que l'Afrique puisse partager ses grâces, ses fruits, sa génie avec le monde.